BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Les architectes de l'avenir sont ici. Nos experts vous fournissent des conseils en acier. Bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver en direct au rythme des marchés. Effectivement, Étienne Brack est avec nous d'ailleurs depuis la tour Euronext. Bonjour Étienne, séance dans le rouge aujourd'hui pour le CAC 40.
Bonjour à tous. En effet, la deuxième, puisqu'après une perte de 0,58% hier, le CAC 40 perd 0,87% sous les 7600 points, 7595 points. Du flottement également du côté de Wall Street, où vous avez des prises de bénéfices. Le marché est en plein doute sur les publications d'entreprises, sur le calendrier des baisses de taux. Donc dans ce contexte, vous avez des volumes d'échanges qui sont toujours faibles et un attentisme toujours présent.
Effectivement, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, on suit bien sûr à l'approche des législatives, il est toujours stable, 72 points, 72 points à l'instant d'écart de taux entre les 10 ans allemands et français, on va en parler. Et puis, bah, quand même, le message que tout n'est pas complètement noir, malgré tout, pour l'économie mondiale. On sera avec Philippe Wächter tout à l'heure, dans un instant, on sera à peine dans 10 minutes, depuis les bureaux d'Ostrom Asset Management. La Data Room aussi à suivre à 17h25, le potentiel de la bourse italienne. C'est Igor Demac qui nous dira qu'à ses yeux, la bourse italienne est peut-être le marché européen qui présente aujourd'hui le plus fort potentiel. Et puis, le titre Rivian, qu'il ne faut pas rater aujourd'hui aux États-Unis, c'est la star du jour sur le marché américain avec FedEx. Rivian gagne en ce moment 30% parce que Volkswagen annonce un investissement de 5 milliards de dollars dans une co-entreprise avec Rivian. Spectaculaire, donc la réaction des marchés. Rivian gagne 30% et on a presque envie de dire Allemagne 2, États-Unis 0. C'est ce que nous disait d'ailleurs tout à l'heure John Plassard, puisque parallèlement, on aurait aussi une offre de Bosch sur Whirlpool, l'allemand Bosch sur l'américain Whirlpool, et Whirlpool gagne également du terrain, plus 8% en ce moment. On va aussi en parler. On est à vos côtés, on joue dans votre camp, bienvenue à tous.
Votre programme avec Salva by Garance. Votre épargne autrement. Salva, ça va le faire. Salvalefaire.fr. Tout investissement comporte des risques de perte en capital.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et John Plassard nous parlait alors non seulement de ce match entre les États-Unis et l'Allemagne, 2-0 pour l'Allemagne face aux États-Unis, donc Bosch qui rachèterait pourquoi pas Whirlpool et Volkswagen qui investit 5 milliards dans Rivian, bon, 2-0 pour l'Allemagne, mais il nous parlait aussi de cette incroyable publication de FedEx. Le titre FedEx gagne 12%, mais il faut relativiser cette hausse de 12%. Il nous l'a expliqué. Si vous avez raté le direct, le replay est disponible. Vous pouvez consulter notre application BFM Business. Vous allez dans BFM Bourse et dans la rubrique replay, très très simple. USA Today chaque jour, et donc FedEx aujourd'hui en hausse de 12%. Les explications replay de John Plassard. Étienne, à Paris, on n'est pas du tout en hausse de 12%. Vous nous le disiez, c'est la deuxième baisse d'affilée du CAC 40.
En effet, ce qui est quand même assez rare pour être souligné, hein, la dernière fois que le CAC 40 a subi deux baisses d'affilée, c'était juste après l'annonce sur les législatives, les 13 et 14 juin, moins 0,87% à l'heure actuelle, après une baisse de 0,58% déjà hier, un CAC 40 qui est de justesse au-delà des 7600 points, 7603 points. À noter que vous avez seulement trois valeurs qui sont dans le vert dans le CAC 40, Eurofins qui continue de se reprendre après sa baisse de 15% hier, Téléperformance et Dassault Systèmes, tout le reste est dans le rouge avec plus de 5-6 valeurs qui perdent plus de 1,5%. Le secteur bancaire qui est un petit peu surperformé, le secteur du luxe également qui était en tête hier, rebascule dans le rouge. À noter des volumes d'échanges qui se tassent un petit peu après les 4 milliards d'euros d'hier, 1,5 milliard d'euros négociés dans l'indice parisien. Du côté de Wall Street, vous avez le Nasdaq qui est dans le vert, plus 0,3%. Merci Apple qui gagne 1,5%. Et puis merci encore une fois à Nvidia qui, après avoir perdu 6% lundi, regagné 6% hier, reprend 1% aujourd'hui, au-delà des 127 dollars l'action et les 3154 milliards de capitalisation boursière. Du côté de l'obligataire aux États-Unis, vous avez un 10 ans américain qui prend 6 points de base. Donc ça fait un petit peu pression sur le Dow Jones qui perd 0,4%. À nouveau des commentaires de Michelle Bowman, qui est une gouverneure de la Fed, qui répète à nouveau qu'il ne faut pas exclure de nouvelles hausses de taux, que la Fed prendra son temps avant de baisser les taux. Donc forcément, ça fait bondir l'obligataire quand le dollar de son côté est à nouveau recherché. Euro-dollar qui baisse de 0,3% à 1,0683. Le tout donc dans une tendance baissière. À nouveau une pause sur le CAC 40, moins 0,7%, 7605 points.
Effectivement, notre CAC 40 qui sous-performe les autres marchés européens. D'ailleurs aujourd'hui, une nouvelle fois, Thibaut François est donc avec nous en fil rouge. Rebonjour Thibaut.
Rebonjour Guillaume.
Fondateur de Fastia Capital. Vous faites quoi là Thibaut? Non mais on est à 4 jours là, des législatives. Vous faites quoi dans les portefeuilles? Vous arbitrez, vous prenez des positions ou vous attendez?
On a pas mal de positions cash aujourd'hui dans les portefeuilles. On a pris des bénéfices ces dernières semaines, ces derniers jours. Et aujourd'hui, on prépare le 8 juillet. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va acheter, est-ce qu'il faut acheter d'abord, qu'est-ce qu'on va acheter, et donc on prépare un petit peu ce qu'il pourrait y avoir. Donc effectivement, il peut y avoir une forte baisse du marché. Alors il pourrait aussi y avoir plutôt un rebond et puis repartir de l'avant. Mais s'il y a une forte baisse du marché, c'est aussi à nous de pouvoir la saisir et de pouvoir acheter des titres qui ne méritent pas une correction importante comme on l'a vu le 10 juin dernier. Donc on va forcément regarder un petit peu ce qui pourrait sortir du lot et les sociétés sur lesquelles on a envie d'avoir dans le portefeuille dans les 5 prochaines années.
Alors du coup, c'est lesquelles ? Enfin, quelles entreprises estimez-vous trop fortement sanctionnées par le marché, les plus capables d'un rebond à partir du 8 juillet, en fonction du résultat des élections ? C'est ça qui est compliqué, c'est que là, l'avenir, il est complètement incertain.
Ouais. Bah, c'est vrai que si on a le même type de réaction que le 10 juin, on a des titres, mais même dans le CAC 40, on a des titres par exemple comme Vinci, qui ont été ça a été fortement chahuté. Beaucoup d'investisseurs ont vendu Vinci, alors à cause, entre guillemets, d'une possible nationalisation de la partie autoroutière, mais Vinci, c'est au-delà de l'autoroute. Vinci, aujourd'hui, c'est à davantage des aéroports. Mmh. Et donc, effectivement, aujourd'hui, revenir sur des fondamentaux et sur des entreprises, sur des niveaux de valorisation qui sont plutôt faibles, c'est une grosse opportunité d'achat. Par contre, c'est pas facile d'acheter. Parce que on va avoir beaucoup de volatilité, on va avoir beaucoup d'incertitudes, parce que ça m'étonnerait qu'on ait un on-off le 8 juillet. Donc aujourd'hui, il faudra saisir les opportunités. Et c'est vrai que les fondamentaux de nos entreprises nous permettent d'avoir cette visibilité si on ne l'a pas d'un point de vue macro ou zone géographique.
Est-ce que vous sentez que l'instabilité, le contexte politique va encore entraîner une raréfaction des introductions en bourse ? Je prends l'exemple de Sanofi. Sanofi qui a, d'après Bloomberg, lancé un appel d'offres pour la vente de son pôle santé grand public. Ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément d'introduction en bourse. Il y aura peut-être une autre façon pour Sanofi de céder ce pôle. Est-ce que vous y voyez le signe, effectivement, que Sanofi prépare un contournement de l'introduction en bourse ?
Ils essaient de valoriser au mieux l'activité. Aujourd'hui, ils cherchent du cash pour effectivement se concentrer sur d'autres activités. Donc, valoriser, on va dire. Mais aujourd'hui, la bourse ne valorise plus une entreprise. On en parlait tout à l'heure de Fountaine Pajot. Aujourd'hui, peu importe le chiffre d'affaires que vous sortez, le résultat que vous sortez, si la société elle a de la trésorerie ou pas, aujourd'hui, la valorisation des boîtes cotées en France est ridicule. Mmh. Qui veut s'introduire en bourse aujourd'hui ?
Et ça ne date pas de la dissolution, ça.
Exactement.
Ça date déjà
depuis quelques mois, quelques années. Qui veut s'introduire en bourse aujourd'hui ? Quel est l'intérêt d'être venir en bourse aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous êtes moins bien valorisé aujourd'hui en étant en bourse par rapport aux concurrents qui ne sont pas cotés, qui sont souvent beaucoup plus petits que vous, qui sont moins structurés et que vous allez payer plus cher. Aujourd'hui, celui qui n'a pas besoin d'augmentation de capital ou de liquidité, etc., je ne vois pas son intérêt d'être en bourse aujourd'hui.
Oui, sauf que l'image de la France avec cette dissolution, l'ambiance politique est un tout petit peu dégradée quand même, vu des investisseurs internationaux. Quand on discute avec des acteurs du private equity, d'ailleurs, on sent que la France, là, ça a mis un gros coup de froid quand même, cette dissolution. Est-ce que vous pensez pas que justement un certain nombre d'entreprises qui jusqu'ici bénéficiaient de l'appétit du private equity international vont un peu plus avoir de mal à attirer ce private equity et les investisseurs internationaux qu'avant, même hors bourse?
Oui, bien sûr. Alors effectivement, là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, on a une valorisation qui est très faible en bourse, mais aujourd'hui qui est très élevée sur le private equity. Donc, à un moment donné, il va falloir aussi que ces deux valorisations puissent s'ajuster à un moment donné. Rappelez-vous, dans les années 2000, on avait une prime pour les valeurs qui étaient cotées. Les entreprises non cotées avaient une décote, ce qui était logique, il n'y avait pas de liquidité possible. Et elles sont moins structurées, etc. Aujourd'hui, on arrive avec une prime pour le private equity qui est de 20, 30, 40% parfois. Ce n'est absolument pas logique. Et effectivement, je pense qu'il y a moins de capitaux qui vont venir en France. Effectivement, aujourd'hui, la zone française peut faire peur.
Oui, où les primes pourraient s'ajuster à la baisse en concurrence. Étienne nous appelle, la Tour Euronext en direct, 16h13. Étienne, une autre valeur à ne pas rater, le titre Alphen.
Alphen, ça se passe du côté d'Amsterdam avec les small et mid cap qui ont vraiment la vie dure en ce moment, puisqu'en plus des problèmes de flux, des incertitudes, on en connaît, des problèmes sur les small et mid cap, on en parle toutes les semaines, elles plongent d'une façon spectaculaire lors des annonces. Souvenez-vous, la semaine dernière, Plastivaloire a revu à la baisse ses objectifs, moins 16%, hier Trigano, moins 8%, et aujourd'hui Alphen perd 50%. C'est juste hallucinant ce qui se passe sur cette boîte. 20% des titres qui sont échangés, donc vous avez des volumes qui sont spectaculaires, avec un groupe qui est spécialisé dans les bornes de recharge, dans les stockages des produits énergétiques, qui revoit à la baisse ses objectifs. Alors déjà, ils constatent qu'avec la baisse des ventes de voitures électriques en Europe, forcément, ça se normalise en termes de besoins de bornes de recharge. Et puis, dans le même temps, vous avez certains clients qui ont décalé certains projets. Donc, au lieu de facturer au deuxième trimestre, ça sera peut-être au troisième, au quatrième, voire même l'année prochaine. Donc, suite à cela, le chiffre d'affaires sera de 485 à 520 millions d'euros pour cette année, alors qu'initialement, il était prévu entre 590 et 660 millions d'euros. Donc, vous voyez, c'est un décalage très important. La marge d'EBITDA également qui va prendre un coup. Donc, le marché s'ajuste. 15,47 € pour cette valeur. Souvenez-vous, elle était au-delà des 100 €, il y a un peu plus d'un an et demi. C'était une valeur à la mode après le Covid, avec l'envolée des ventes de voitures électriques. Et donc là, aujourd'hui, il se retrouve sur des plus bas de 4 ans, ce titre Alphen, qui est donc une small mid cap, puisqu'avec la baisse du jour, la valorisation redescend sous les 400 millions d'euros.
Impressionnant, effectivement. Vous évoquez les véhicules électriques. On va continuer d'en parler, d'ailleurs, de cet univers automobile à travers quand même cette opération, Thibault, incroyable, 5 milliards de dollars. C'est ce que va investir Volkswagen dans une co-entreprise avec l'américain Rivian, spécialiste des véhicules électriques. Incroyable. Rivian à Wall Street, d'ailleurs, gagne en ce moment un peu plus de 30%. L'avenir est en bourse. L'avenir boursier du secteur automobile, il réside dans ces vieux acteurs qui arrivent à coopérer avec les nouveaux ou juste dans les nouveaux?
Non, il y a un mix qui est intéressant. Et aujourd'hui, je pense que l'américain et l'allemand se sont bien trouvés sur le sujet. Le seul point faible de Volkswagen depuis des années, c'est qu'ils n'ont pas pris le virage de électrique. Ils étaient en retard. Et aujourd'hui, ils sont en train de sortir une joint venture avec un spécialiste de l'électrique qui a besoin en plus de cash. Donc aujourd'hui, il y en a un qui a besoin de cash qui trouve le cash et l'autre qui a besoin de l'électrique qui trouve l'électrique. Pour moi, le deal est ultra intéressant des deux côtés. En plus, Volkswagen a du cash. C'est-à-dire que les constructeurs automobiles, les vieux constructeurs, etc., dont on parle, ils ont quand même ultra bien travaillé sur les 20 dernières années. Ce sont des entreprises qui sont de moins en moins cycliques. Ils sont partout dans le monde. Ils sont multimarques. Ils sont multimodèles aussi, parce qu'ils sont sur du bas de gamme, mais ils sont aussi sur du très haut de gamme. Et aujourd'hui, Volkswagen, ils sont capables de produire n'importe où dans le monde. Ça, c'est une des forces de Volkswagen par rapport à d'autres constructeurs automobiles allemands qui construisent principalement en Allemagne. Volkswagen peut construire partout, ils vendent partout, et là aujourd'hui c'est sur l'électrique. Je pense que c'est un super deal et c'est un deal gagnant-gagnant pour les deux sociétés.
Bon, ça renforce votre attrait pour Volkswagen alors.
Clairement, bien. Bon. Même si le secteur est plus compliqué.
Renaud Ramet nous appelle depuis le bureau de Premier Parrain. Bonjour Renaud.
Oui,
vous venez
bonjour,
nous apporter une idée de valeur en plus. Voilà, on est vraiment au service de ceux qui nous suivent chaque jour dans BFM Bourse. Une idée pour compléter les portefeuilles. Ça s'appelle valeur ajoutée. Reconnaissez que le nom est bien trouvé quand même.
C'est pas mal.
16h, effectivement. Renaud, cette valeur ajoutée que vous nous proposez aujourd'hui, c'est Befesa. Vous êtes positif sur ce titre?
Oui, Befesa, anciennement dénommé Bilbao Midco, en fait, c'est une ancienne filiale du groupe espagnol Abengoa, cédée en juillet 2013 au fonds Triton Partners, puis coté à Francfort depuis 2017. Alors, son métier consiste à traiter les déchets de la métallurgie, en particulier les poussières d'acier, mais aussi des résidus de la production d'aluminium. La société, elle exploite 23 usines de recyclage un peu partout dans le monde et possède de solides parts de marché mondial évaluées à peu près à 40%. Alors, c'est une belle mid-cap d'un milliard d'euros, à noter un flottant de 100%, et à préciser que Premier Parrain est actionnaire de la société à travers certaines typologies de mandats de gestion. Alors, fondamentalement, ce qu'on apprécie chez Befesa, c'est son statut de pure player de l'économie circulaire, avec un modèle économique typique en circuit court. La société permet un élément clé de l'industrie métallurgique, car elle permet à ses clients de s'adapter à l'intensification des normes environnementales, aussi bien dans les pays de l'OCDE qu'émergents, et en outre de se positionner sur le développement de l'aciérie électrique, qui dégage 7 fois moins de CO2 que l'aciérie classique à oxygène.
Au-delà de ces considérations long terme, quand même, Renaud, Befesa ne demeure-t-elle pas une valeur cyclique? En plus, c'est mid-cap, on sait que l'univers mid-cap souffre en ce moment. Bref, est-ce que c'est vraiment le moment de nous conseiller ce profil de valeur?
Alors, évidemment, au-delà alors vous évoquez les fondamentaux et la bourse, certes, sur ces tendances structurées pour nous fondamentales, les prix et les volumes peuvent être volatiles d'un trimestre à un autre. Mais après une année 2023 de vent plutôt contraire, en fait, nous misons sur un point d'inflexion en 2024, où on pense que Befesa pourra bénéficier progressivement de prix de vente plus favorables, également la baisse de certains coûts énergétiques permettant une forte croissance de l'EBITDA. Et on a eu plutôt tendance d'une confirmation récente du management, où management qui avait été très prudent en avril, où le titre avait dégagé, on pense que le point bas de la guidance est plutôt excessif. Et à date, les taux d'utilisation sont plutôt élevés en Europe. Une bonne discipline des investissements cette année pourrait permettre également une détente du levier financier et ne pas oublier que Befesa est aussi une histoire de croissance externe. Alors en fait, si on cherche dans la cote pour des croissances de bénéfices par action très élevées cette année et l'année prochaine, et des croissances elles-mêmes encore révisées en hausse, il y a assez peu de titres, couplé à une valorisation somme toute relativement abordable, une valeur d'entreprise sur EBITDA un peu plus de 8 fois cette année, ça se détend encore sur 2025, alors que la société a coté plus de 10 fois lors de son IPO, on trouve que le groupe est trop décoté par rapport à ses fondamentaux et ce point d'inflexion qui est visé.
Merci beaucoup. Votre objectif de cours, Renaud, sur cette valeur, Befesa ?
38 euros sur le potentiel actuel, ça va avoir un upside d'un peu plus de 25%.
38 euros, c'est votre objectif de cours sur ce titre Befesa. Renaud Ramet et ses équipes chez Premier Parrain. Merci Renaud, merci aussi Thibaut François qui nous a accompagnés aujourd'hui. Salut Thibaut.
Salut Guillaume.
Merci beaucoup. Alors que le CAC 40 est toujours en repli en ce moment de 0,7%. L'écart de taux avec l'Allemagne, toujours 72 points entre les 10 ans français et allemands en ce moment.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Justement, on va parler de ces législatives aussi qui approchent. Philippe Vechter, directeur de la recherche économique d'Ostrom Asset Management. Bonjour Philippe.
Bonjour Guillaume.
Est-ce que vous révisez à la baisse vos prévisions de croissance pour la France pour ce trimestre et pourquoi pas pour le prochain trimestre du simple fait de la tenue de ces législatives et de l'effet de souffle que ça a eu quand même sur le milieu politique français mais aussi sur les Français tout court?
Pour l'instant, on n'acte pas ce phénomène, mais clairement, Le biais est plutôt à la baisse parce que quel que soit le résultat, ça va engendrer pas mal d'incertitudes et probablement l'incitation pour les entreprises de se calmer sur l'investissement, beaucoup de prudence parce qu'on va avoir un scénario macro sociétal, si je puis dire, assez nouveau, soit une majorité absolue dans les extrêmes, soit pas de majorité du tout, et comment les choses vont-elles bouger ? Pour l'instant, il est compliqué de dire les choses. On y verra plus clair déjà dimanche soir prochain, et puis je pense que les débuts de révision pourraient s'opérer dans le courant de la semaine prochaine.
Alors on est à J-4, Philippe, de ces législatives. Pour l'instant, sur les marchés, on continue à danser la valse, on poursuit la valse, c'est vrai. Vous l'entendez d'ailleurs, ces législatives. Ces législatives sur les marchés sont une valse à trois temps. Premier mouvement, c'était juste après l'annonce de la dissolution, des tensions. Le CAC a perdu 6%, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne s'est amplifié. Ça, c'était le premier mouvement. Deuxième mouvement ensuite, c'est celui dans lequel on se trouve. Statu quo sur les marchés, on acte et on attend pour savoir à quelle sauce on sera mangé à l'issue de ces législatives. Le marché est en mode statu quo. Ça, c'est le deuxième mouvement de la valse. Et le troisième mouvement, il est à venir. Ce sera la réaction au résultat des législatives. Est-ce que cette réaction, Philippe, risque d'être brutale?
Elle peut l'être. On ne peut pas exclure qu'elle le soit parce qu'il y a quand même si on regarde les sondages avec beaucoup d'attention, on n'est pas à l'abri d'une surprise avec un des partis qui s'envole par rapport aux autres. Donc ça, ce serait l'élément de choc qui effectivement pourrait dès lundi matin prochain se traduire par un élargissement du spread, par un CAC 40 qui chute un peu plus, de façon un petit peu plus directionnelle, si je puis dire, ce qu'on a vu depuis une dizaine de jours. Donc ça, c'est le mauvais scénario. Un scénario où il n'y a pas de vainqueur potentiel, ce serait probablement quelque chose qui ressemblerait à ce qu'on connaît en ce moment. Peut-être à un niveau un petit peu plus élevé, parce que on toucherait du doigt le fait que on rentrerait dans un territoire un peu nouveau, gouvernement technique ou je ne sais. On est sur ce type de réflexion aujourd'hui.
Oui, et si on n'a aucune majorité absolue, on imagine donc un peu plus de tension qu'aujourd'hui, mais pas beaucoup plus, même si l'absence de majorité absolue pour quelques partis que ce soit pourrait entraîner une instabilité complètement chronique. Il y aura des motions de censure, peut-être systématiquement votées.
On n'a pas particulières. Si on a un gouvernement technique, son objectif sera de payer les fonctionnaires, payer le pour que la machine de l'État fonctionne, mais sans prendre d'initiative. Donc il n'y a pas de drame à attendre, si je puis dire, dans ce cadre-là. Il n'y a pas d'opérations, d'orientation qui seront mises en œuvre, mais il n'y aura pas des choix brutaux et très très marqués de rupture qui seront prises. Et ça, c'est plutôt ce serait plutôt rassurant d'une certaine manière.
Merci beaucoup Philippe Wechter, je vais y arriver, directeur de la recherche économique d'Ostrom Asset Management, était notre invité, l'écho du monde, chaque après-midi aux alentours de 16h15. Le CAC est toujours en repli de 0,8%. Il continue de sous-performer un petit peu les autres marchés européens.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et Stéphane Prévost nous rejoint à son tour, directeur général de la financière responsable. Bonjour Stéphane.
Bonjour Guillaume.
À 4 jours des législatives, est-ce qu'on va vers un ralentissement de la transition énergétique de la France? On va regarder les programmes, si vous voulez bien. Selon le résultat, est-ce qu'on va vers ce ralentissement de la verdisation de notre économie ou pas?
C'est vrai qu'en fonction du résultat des élections, on va prendre deux directions assez différentes. Alors, sans entrer dans l'analyse politique, quand on regarde les programmes, on voit qu'il y a une continuité qui est proposée par ce qu'on appelle la majorité présidentielle. Et puis également le nouveau Front Populaire, qui d'ailleurs, aucun des candidats n'a remis en cause la trajectoire de neutralité carbone de la France à 2050. On a même, dans le programme du NFP, une échéance qui s'est rapprochée, puisqu'on était sur... Qui s'est éloigné, on était sur 2040, on passe à 2050, ce qui paraît plus raisonnable. Cette neutralité carbone, elle implique qu'on multiplie par 3 le parc éolien actuel et qu'on multiplie par 5 le parc solaire actuel au niveau des énergies renouvelables. Donc,
parce que sur le nucléaire, le NFP, c'est pas très clair pour l'instant.
Alors oui, sur le nucléaire, c'est pas très clair, effectivement. Mais ils ont déjà annoncé qu'il y aurait des grands programmes qui seraient financés, qu'on privilégierait l'hydrolien, les énergies marines. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu au niveau du programme de certaines composantes du nouveau Front Populaire. Et puis sur la majorité présidentielle, il y avait des engagements qui étaient clairs. Côté Rassemblement National sur les énergies renouvelables, il y a un double paradoxe, à mon sens, qui est clair, c'est que, comme je vous l'ai dit, on doit multiplier face à la hausse de la demande d'électricité, qui est là, qui est liée à l'intelligence artificielle, qui est liée au data center, qui est liée au mouvement démographique, on doit augmenter la capacité. Donc si on arrête les projets renouvelables, je ne pense pas que ça permette de satisfaire une attente de la population qui est la baisse des prix. C'est même un peu paradoxal. C'est le premier paradoxe que je voulais souligner. Le deuxième paradoxe, c'est que au moment où le coût des énergies renouvelables, installation et fonctionnement, est fortement en baisse et est devenu compétitif par rapport au nucléaire, bien, on privilégie une énergie qui est plus chère et qui va être plus longue à mettre en œuvre. Alors qu'on a quand même un calendrier qui est un peu plus serré, puis un impératif d'inscription dans la lutte contre le changement climatique qui est plus immédiat, semble-t-il. Donc c'est le double paradoxe que je veux souligner. Par contre, si on regarde un peu les autres compartiments de valeur verte, en ce qui concerne l'aide au logement, pour aussi réduire les émissions qui sont liées à l'isolation des bâtiments, là, il semblerait qu'il y ait un consensus et qu'il n'y aura pas véritablement de changement. D'ailleurs, pour en discuter avec des managements spécialisés dans ce secteur d'activité, il n'y a pas véritablement de crainte, quel que soit le résultat des législatives. Le dernier point qui a attiré mon attention, c'est la volonté du programme du nouveau Front Populaire d'installer à nouveau des filières d'excellence française dans un certain domaine d'énergie renouvelable. Attention, par le passé, ça n'a pas fonctionné, on n'y est pas arrivé. Et c'est pas forcément le rôle de l'État de le faire. Il y a des acteurs spécialisés dans le domaine. Ça peut coûter cher aux contribuables sans forcément une promesse de résultat évidente. On l'a vu en Allemagne avec... le photovoltaïque, pardon, quand la concurrence chinoise est arrivée à casser les prix. Donc, il suffit pas de le vouloir. Il y a une réalité économique qui peut rattraper derrière.
Le regard d'un investisseur ESG au cœur de ces législatives, ces trois programmes. Vous, en tant qu'investisseur, est-ce que vous pensez que les valeurs vertes risquent de souffrir du coup ou pas? Enfin,
c'est possible, ouais. Compte tenu de.
Elles ont déjà souffert d'ailleurs depuis l'annonce de la discussion.
Oui, mais elles souffraient déjà un peu avant parce que le contexte de taux d'intérêt élevé est pas favorable à la rentabilité des projets des énergies renouvelables en général. On sort d'une période de taux d'intérêt très bas. On est passé dans un monde un peu différent. Ça coûte cher, ce sont des financements. Il faut vraiment une exécution opérationnelle d'excellence. Et il y a très peu de groupes qui ont montré cette capacité.
Ouais, on n'a pas encore trouvé la clé de la rentabilité complète. Hein. En tout cas, voilà, pour la performance boursière, ce n'est pas là qu'on la trouve pour l'instant. On voit une performance très convaincante dans l'ESG, pas encore dans les valeurs vertes. Ça dépend après.
Ça reviendra.
Puis ça reviendra sans doute, effectivement.
Ce sont des cycles.
Et alors, vous qui êtes investisseur ESG, vous avez quand même l'esprit large, puisque vous voulez mettre en avant aujourd'hui le titre Ferrari.
Oui.
Pourquoi c'est ESG Ferrari ?
Oui. Je lis souvent des positions assez contradictoires sur le titre, mais au sein d'un secteur automobile dont vous avez parlé encore assez récemment, sur lequel on n'est pas investi sur les constructeurs généralistes, parce que c'est un secteur où on n'a pas du tout de visibilité, on a là, nous, une entreprise qui coche beaucoup de cases. Très belle visibilité sur le carnet de commandes, le chiffre d'affaires, mais surtout... À l'heure où on veut s'inscrire à la fois dans la mobilité, alors là bien sûr on est sur les véhicules de sport de luxe, très très haut de gamme, on regarde l'impact de ces constructeurs et on a là un acteur qui a vraiment un impact environnemental beaucoup plus réduit, quasiment incomparable vis-à-vis des autres constructeurs. Et puis des performances du groupe ces dernières années absolument remarquables. Neutralité carbone en 2030 qui sera atteinte. Réduction des émissions depuis 2019 du groupe Scope 1 et 2 de plus de 50%. On a également aujourd'hui une capacité du groupe à réduire de 40% les émissions de la gamme actuelle qui est vendue grâce à l'hybridation et l'électrification. Donc ça arrive en 2025. Et pour ceux qui sont très attentifs aux émissions de gaz à effet de serre sur le fameux Scope 3 qui est lié non pas aux impacts directs et indirects, mais à l'utilisation du produit, pour faire simple, l'impact de Ferrari est sans commune mesure avec un constructeur généraliste. Il est de 740 000 tonnes de CO2 sur 2023.
Mais c'est normal, il y a peu de Ferrari.
Mais oui. Et puis, Ferrari, ça roule beaucoup moins.
C'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup,
oui,
c'est tout.
Mais ça roule moins aussi. Ah bon. Mais donc, quand on vous dit que ça coche pas la case environnementale, c'est à comparer aux 400 millions de tonnes de CO2 d'un Volkswagen ou bien aux 100 millions de tonnes de CO2 d'un Mercedes. Vous voyez, donc là il y a le principe de réalité que l'investisseur doit avoir et le gérant, à mon sens, doit avoir l'esprit. Et puis, je vais vous dire, quand on regarde l'aspect social également du groupe, j'ai parlé des performances environnementales, on voit bien que Ferrari est un groupe qui suit une stratégie de différenciation avec un modèle de chaîne de valeur et une organisation complètement intégrée. Les salaires sont très élevés. Effectivement, pour avoir des produits d'excellence et de très grande qualité, il faut du personnel très qualifié. 115 000 euros de salaire moyen chargé chez Ferrari. Salaire moyen chargé chez Ferrari. C'est même pas la médiane, hein, c'est le salaire moyen. Taux d'absentéisme extrêmement faible, 1,4%. C'est 2 à 3 fois moins que le secteur. Taux de turnover du personnel 3 fois inférieur au reste du secteur. Bah oui, quand vous avez du personnel très qualifié, il faut les garder. Et puis, également, politique de formation extrêmement avancée. Et en fait, je vais vous dire, pour nous, on considère que Ferrari, en conclusion, n'est pas un acteur, pas un constructeur automobile, mais plutôt une valeur du luxe, avec un modèle intégré, très comparable, très assimilable à une valeur dont vous discutez souvent ici sur les plateaux, qui est Hermès. Et donc, pour nous, c'est plutôt une valeur de l'ultra-luxe qu'on va mettre à côté d'autres valeurs du secteur dans nos portefeuilles.
Ferrari, donc Stéphane Prévost, le directeur général de la financière responsable. Merci Stéphane d'être passé nous voir en plateau.
Merci à vous.
Et Wall Street qui alors recule un peu, le S&P 500, là, moins 0,1%, rien de méchant. Le CAC 40 lui recule de 0,8%. Dans un instant, c'est la famille qui va se réunir, la famille au complet. Julien Marion va nous rejoindre. Et puis notre bullshitomètre aussi, chaque jour, un expert de marché vient déconstruire une idée reçue, défaire un consensus de marché un peu trop facile à ses yeux. Ce sera au menu de la prochaine demi-heure. A tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
C'est notre conseil de famille chaque jour de 16h30, à peu près 16h30 à 17h. L'ensemble de la famille BFM Bourse réunie. Julien Marion nous rejoint. Bonjour Julien.
Bonjour Guillaume.
BFMBourse.com. Julien, le CAC 40 est en petite baisse cet après-midi. Deuxième baisse d'affilée, mine de rien. Moins 0,6%.
J'ai quand même un peu l'impression que c'est les investisseurs américains qui font le marché. Hein, parce qu'on était en hausse ce matin. Et si vous regardez, il y a eu une trajectoire assez linéaire jusqu'à plus ou moins l'ouverture de Wall Street où on a eu un léger rebond. Et les raisons qu'on invoque pour justifier la baisse d'aujourd'hui, c'est des déclarations restrictives de certains membres de la Fed, notamment Michel Bowman. Mais ces déclarations, elles ont été prononcées hier.
Oui.
Si vous voulez. Donc on a l'impression que
Wall Street fait, Wall Street fait pas grand chose. Hein. On est stable à Wall Street.
On a l'impression qu'il faut que les marchés américains se réveillent pour que tout ça soit activé et qu'il y ait un mouvement de marché qui s'observe. Bon. Oui. Voilà, c'est mon interprétation.
Les valeurs qui se distinguent, tiens, on évoque l'impact, l'influence de Wall Street. Les valeurs qui se distinguent le plus sont la FedEx, là, quand même, qui a présenté ses résultats, ses perspectives solides, mais c'est surtout grâce à des réductions de coûts. Hein. C'est pas qu'il y a de plus en plus de colis, au contraire. Donc ça, c'est pas top d'ailleurs. C'est pas top pour l'économie mondiale qu'il n'y ait pas de plus en plus de colis. On aurait aimé que FedEx nous annonce qu'il y a de plus en plus de colis, ce n'est pas le cas. Et en fait, les résultats et les perspectives s'améliorent du fait des réductions de coûts. Voilà pourquoi FedEx gagne 12% en ce moment à Wall Street. On en parlait d'ailleurs aussi avec John Plassard dans USA Today tout à l'heure, c'était à 15h30. Vous pouvez vous tous retrouver le replay sur notre application BFM Business. Romain Dobré est avec nous. Bonjour Romain, depuis Bourse Direct.
William.
Quel signal technique le marché envoie-t-il aujourd'hui, Romain ?
Bien, on a une page blanche qui s'ouvre sur les marchés dérivés avec une nouvelle échéance qui est entamée avec une baisse d'intérêt très significative. En Europe, on l'avait détecté dès lundi avec 15 à 20% d'intérêt non reconduit sur les indices Eurostox ou CAC 40. Et puis sur les indices américains, on a la confirmation aussi qu'on est arrivé manifestement au bout d'un mouvement puisqu'on a près de 30% des contrats qui n'ont pas été reconduits sur le mois suivant. Ça veut dire que pour tout l'aspect technique, alors c'est un nouveau trimestre qui est entamé ici aussi, mais pour tout l'aspect technique, les opérateurs se mettent en retrait et on a vu des décalages assez marqués. On avait évoqué lundi les possibles décalages sur Nvidia liés à ces considérations techniques qui ont amplifié un mouvement de consolidation et par rapport à des écarts à la moyenne importants. On a l'impression que tous les marchés veulent se mettre un peu en retrait à l'entame d'une période qui laisse beaucoup de questions. On a pour le calendrier les choses les plus proches, l'indice PCE Core à la consommation des ménages vendredi. Ensuite, on va avoir évidemment les résultats des élections législatives en France, de façon plus localisée, mais avec un impact en Europe, bien entendu. Et puis, d'ici 15 jours, 3 semaines, le début de la saison des publications trimestrielles des entreprises. Et on voit que les opérateurs en amont de ces rendez-vous-là restent très en retrait, ce qui veut dire que les carnets d'ordre sont creux. Et on l'a déjà remarqué, on a déjà pu l'apprécier, si je puis dire, sur le marché, puisqu'on a vu des décalages hyper violents sur des valeurs comme Euro, ou Airbus hier encore, et puis il y a Alphen aujourd'hui dans un autre registre et une autre taille de capitalisation. Donc on voit qu'il y a peu d'initiatives, que les opérateurs sont très en retrait et on évolue au sein de range. Même sur les marchés américains hier qui ont rebondi un peu, on n'a pas vu de construction d'intérêt sur les futurs, c'est-à-dire qu'on rebondit mais de façon molle et l'intérêt technique n'accompagne pas ces mouvements-là. Donc on a un peu de volatilité à mon sens à prévoir, des marchés creux dans les jours qui viennent. Donc prudence dans ces marchés-là, avec pas des alertes majeures encore à mon sens, puisqu'on l'a évoqué déjà aussi. En tout cas, en Europe, les niveaux de couverture sont remontés très significativement dans les portefeuilles. La volatilité reste à 17 sur l'Eurostox. Elle est à plus de 21-22 sur le CAC 40, toujours, même alors que les marchés semblent se stabiliser. Elle ne redescend pas à cette volatilité. Cette volatilité, on rappelle qu'elle est extraite du prix des options, c'est-à-dire que c'est le prix auquel on se couvre. Et bien, ce prix de couverture, il est toujours important. Donc, on a toujours ce sentiment de très grande méfiance, mais d'opérateurs aussi très en retrait. Donc, pour l'instant, et ça semble assez légitime, on ne peut pas vraiment prendre d'initiative.
Votre message, c'est méfiez-vous de l'eau qui dort. On sent que l'eau dort un peu là, sur les marchés. Méfiez-vous de l'eau qui dort parce que pour l'instant, la volatilité effectivement reste au même niveau que quand on a été en plein stress là, au lendemain de la dissolution. On est à 21 en ce moment. On est fait sur la volatilité française. Quels sont, alors en cas de stress ou pas d'ailleurs, quels sont les prochains seuils, les prochains paliers techniques à surveiller sur le CAC, Romain ?
Alors sur le CAC, on avait évoqué après le rebond dans la zone 7507-7530 une cible idéale du rebond à 7744-7791. On est monté à 7744,5 précisément 744 pardon pile, ce qui veut dire qu'on a flirté avec cette zone idéale du rebond avant de se replier assez rapidement. C'est vraiment le service minimum dans le rebond et donc à mon sens, jusqu'à ce qu'on ait des éléments complémentaires ou des sondages pour faire bouger l'indice, on est bloqué entre 7507 en bas sur le futur CAC 40 juillet et 7741-791 en haut. Ça n'est qu'au débordement de ce niveau-là en clôture qu'on pourrait considérer que la baisse est neutralisée, non pas, on ne passerait pas en tendance haussière, mais on neutraliserait le mouvement de baisse et ce jusqu'à 7930. Il faudrait repasser 7930 pour repasser à la hausse. Ce n'est pas le scénario auquel on croit le plus pour l'instant. Si en revanche, on casse les niveaux d'alerte, là, donc sous 7507, on a des chances d'accélérer en direction de 7220 autour. On pourrait même aller plus bas, puisque si on rompt ces niveaux d'alerte, c'est que le pire, entre guillemets, escompté par le marché se produit, et dans ce cas-là, les accélérations pourraient être plus fortes. Pour l'instant, c'est 7507, 7791 qui est vraiment ce qu'on avait proposé et qui reste d'actualité. Donc, on ne peut pas détecter vraiment de mouvement et d'éléments très sérieux de ce marché pour l'instant. C'est la spéculation qui drive ces allers-retours, et on le voit avec des amplitudes de plus de 2% sur un indice qui était en hausse ce matin et qui est repassé en baisse et revient à l'équilibre maintenant.
On est très concentré sur la France. Il y a une autre façon de mesurer le stress des investisseurs internationaux sur la France, c'est le spread entre la France et l'Allemagne, entre les 10 ans français et allemands. Là-dessus, on est stable, on est toujours à 72 points d'écart aujourd'hui de taux entre les 10 ans français et allemands à 4 jours des législatives. Bon, on a besoin de prendre un peu d'air aussi quand même, Romain, et que vous nous apportiez des idées d'investissement, voilà, des actifs à vos yeux qui, d'un point de vue technique, offrent plus de potentiel. Est-ce qu'on peut en mettre un en avant cet après-midi?
Oui, alors, d'une façon générale, vous savez qu'on a une exposition importante aux matières premières qui nous a servi d'arbitrage et de protection dans ce contexte de marché un peu nerveux, surtout en France. Pour l'instant, le palladium, effectivement, est à surveiller pour l'instant. Ce ne sont pas des signaux qui sont encore affirmés, mais on voit que ça frémit sur des niveaux de support. Il faut rappeler que le palladium cotait 3060 en 2020 et qu'actuellement, il cote 919. Donc, divisé par 3 le cours de cet actif au cours de la période. Et là, depuis le mois de février dernier, il s'est arrêté au-delà d'un support très très important à 876. Il avait rebondi jusqu'à 1120 et revient tester ce niveau de support pour l'instant. Il faudrait passer 1004 pour réactiver la dynamique haussière et dans ce cas-là, aller chercher des cibles intéressantes qui seraient situées dans un premier temps à 1250, 1247 et puis pourquoi pas 1394. Donc encore une fois, dans cette optique de transition énergétique et puis d'inflation, même si elle ralentit, d'aller chercher des actifs et des matières premières qui peuvent donner des signaux. Pour l'instant, encore une fois, le signal est assez mitigé.
Romain Daubry avec nous, puis Bourse Direct. On vous retrouvera à la clôture des marchés tout à l'heure. Romain, ce sera à 17h35. La famille est réunie et vous tous qui nous suivez à la radio, à la télé, vous faites partie de la famille. Surtout d'ailleurs si vous vous abonnez à nos réseaux sociaux, notre fil X et notre fil LinkedIn, BFM Bourse, parce que sur les réseaux, on interagit avec vous et on vous interroge. La question du jour, après la chute hier du secteur aéronautique, ça continue d'ailleurs encore aujourd'hui, Airbus perd 2,5% supplémentaire. Mais quelle valeur de ce secteur seriez-vous prêt à racheter en priorité? Est-ce que c'est Airbus? Est-ce que c'est Safran, Thales? Ou encore Dassault Aviation. Quatre options. Julien.
Oui, moi j'aime beaucoup l'aéronautique. Hein. C'est un de mes secteurs, si ce n'est mon secteur préféré en bourse, en tant que journaliste, plus qu'investisseur. Mm-hmm. Et si vous voulez, on va faire par élimination. Airbus, c'est le deuxième couac d'exécution en 2 ans. Hein. En 2022, ils avaient déjà raté leur objectif de livraison. Dassault Aviation, il y a deux branches militaires, certes, avec le Rafale qui a certains succès, mais la branche, si vous voulez, civil avec les bijets fait face à une conjoncture plus compliquée, des prises de commandes faibles. Donc c'est compliqué. Reste Safran et Thales. C'est vraiment deux entreprises qui ont une exécution solide. Il y a eu un couac en 2019 chez Thales, son investissement sur chiffre d'affaires, et aucun chez Safran. Safran, par déduction, ça dépend ce que vous voulez faire, parce que Safran a une exécution remarquable. La question, c'est savoir si la valeur est chère ou pas. Donc c'est probablement celle qui affiche, si vous voulez, les vertus les plus importantes. Il va y avoir un peu de tension avec Airbus hein, par rapport à des histoires de moteurs qui sont pas livrés.
Vous êtes complètement en désaccord avec nos auditeurs et téléspectateurs parce que nos auditeurs et téléspectateurs ont voté en majorité. Quelle valeur hein, seriez-vous prêt à racheter en priorité dans l'aéronautique après la chute d'hier et encore aujourd'hui à 28%, c'est la majorité, ils ont voté Airbus. À 28%, Dassault Aviation à 26%. Mm-hmm. Et vous vous dites non, Je préfère Safran et Thales. Ben, ce sont les deux derniers. Nos auditeurs et téléspectateurs ont voté à moins de 25% pour Safran.
Les écarts sont assez faibles en réalité, premièrement. Deuxièmement, les auditeurs ont peut-être raison. Je ne dis pas, hein, c'est le principe. Un point d'entrée sur Airbus, c'est une très belle valeur à long terme. Je dis juste qu'à moyen terme, on peut avoir 2, 3 mois, 4 mois, comme on disait d'ailleurs hier avec François Monnier, où il ne faut pas attendre grand-chose, il risque de rien faire. Mais il peut y avoir un rebond par la suite.
Parce qu'on rappelle hier, Airbus a revu à la baisse ses perspectives en matière de livraison, en matière de résultats opérationnels, sur le cash également. Du coup, certains se demandent même si ces nouvelles prévisions pourront être atteintes. Bon, il y a peut-être quelques mois là, d'incertitude autour d'Airbus et de son potentiel. Aujourd'hui, Airbus, après avoir perdu hier quasiment 10%, perd encore 2,5%.
Ça fait ça, la baisse du CAC 40.
Effectivement, ça, d'un point de vue technique, c'est pas forcément très très bon signe non plus. Julien, il faut qu'on parle dans cette séance compliquée d'un cas à part. Sanofi. Selon Bloomberg, Sanofi a lancé un appel d'offres pour sa division santé grand public, connue par exemple pour le Doliprane.
Oui, tout à fait. Cette division santé grand public, si vous vous souvenez bien, Guillaume, ils avaient annoncé déjà à l'automne qu'ils voulaient s'en séparer, alors faire une scission. Et ils avaient dit qu'il y avait plusieurs options pour faire cette scission. Alors, il y en avait plusieurs, mais la plus probable, c'était l'introduction en bourse. Ils avaient évoqué, en termes de calendrier, la fin de cette année 2024. Là, ce que nous dit Bloomberg, c'est qu'en plus de préparer cette introduction en bourse, ils ont lancé, si vous voulez, un deuxième lièvre, une deuxième voie pour tester. Ils ont effectivement lancé un appel d'offres en vue d'une possible vente en direct, qui a priori d'ailleurs attiré l'attention de plusieurs fonds de capital investissement, des fonds de private equity comme on dit. Bloomberg d'ailleurs évoque une valorisation de 20 milliards de dollars, on ne sait pas exactement comment est-ce qu'ils l'ont eu, c'est a priori des sources proches du dossier. Donc voilà, donc ce serait une vente en direct. Alors nous on a contacté Sanofi.
Vous les avez appelés chez Sanofi ?
Oui, oui, bah, oui.
Ils vous ont dit quoi ?
Pardon ?
Ils vous ont dit quoi ?
Ils nous ont dit qu'ils ne commentaient pas les rumeurs de marché, c'est souvent le cas d'ailleurs avec les entreprises, mais ils ont aussi dit que le projet de séparation avançait. Et qu'il garde, là je vais citer, toutes les options ouvertes afin de maximiser la création de valeur pour toutes nos parties prenantes.
Parce que la question que pose cette information Bloomberg, qui n'est pas encore confirmée en effet par Sanofi, la question que pose cette information Bloomberg, c'est de savoir si pour son pôle grand public, Sanofi renoncera à une introduction en bourse. C'est la question que ça pose avec un contexte politique français compliqué, une bourse de Paris peut-être amenée à connaître des hauts et des bas, bref, moins d'attractivité et peut-être encore moins d'introduction en bourse à venir. On se demande si là, ce que nous dit Sanofi n'est pas le signe avant-coureur, effectivement, d'une raréfaction à venir des introductions en bourse. Mais on n'en est pas sûr. Parce qu'effectivement, c'est pas parce que Sanofi lance un appel d'offres qu'ils vont renoncer à cette introduction en bourse. C'est juste un appel d'offres. Ça permettra peut-être de donner un prix d'ailleurs et une valeur au moment de l'introduction en bourse. On a le sentiment qu'il court peut-être en réalité deux lièvres à la fois. Et si tel est le cas, c'est plutôt pas mal comme stratégie, non ?
Mais je suis entièrement d'accord avec vous, Guillaume. D'ailleurs, vous avez un peu anticipé sur ce que je m'apprêtais à dire, pour être honnête, mais ça ne fait que renforcer le dialogue. Vous avez raison. En fait, c'est intelligent de tester l'appétit du marché actuellement. D'ailleurs, Invest Securities considère que ce serait une opération gagnante, une vente en direct. Parce que selon eux, ça permettrait au groupe de déployer sa stratégie qui consiste à se recentrer sur les médicaments et vaccins innovants, sans renier pour autant leurs bénéfices par action. Et comme vous l'avez dit, en fait, je vous rejoins entièrement là-dessus. Si vous voulez. D'ailleurs, il faut même voir que Barclays disait que la seule répercussion de la dissolution de l'Assemblée pour Sanofi, eh bien, c'est ça. C'est-à-dire un marché français volatile et donc pas forcément des conditions ultra propices pour une introduction en bourse. C'est exactement ce que vous venez de dire, Guillaume.
Et
dans ce contexte, c'est logique, si vous voulez, tester, de lancer en fait, des ballons d'essai pour voir quel est l'appétit du private equity pour cette session.
Mais oui, puis comparer, puis voir si finalement une introduction en bourse ne serait pas préférable. Bon, c'est intéressant en tout cas d'observer cette stratégie de Sanofi. C'est pour ça qu'on a choisi de le mettre en avant dans la famille. Et vous y consacrez d'ailleurs un article sur bfmbourse.com. L'article est très complet. Chacun peut le consulter. Et comment le marché réagit à cette scission prévue de l'activité grand public ?
C'est un peu compliqué parce que quand ils ont annoncé en fait cette scission, elle était incluse dans tout un plan stratégique et vraiment déçu en octobre. Vous vous rappelez, c'est la fameuse séance où Sanofi a perdu 19%. Oui. Sauf que cette scission, ça a été peut-être l'un des seuls éléments que les analystes ont apprécié. Un HSBC parlait même d'un potentiel catalyseur pour enclencher une réappréciation des multiples boursiers. Je vais juste vous donner un exemple en fait assez criant, et c'est Novartis. Novartis, en dernier, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait une scission avec une introduction en bourse de Sandoz, un nom de chimie assez connu qui avait disparu à la suite d'opérations capitalistiques dans les années 90. Mais Sandoz était devenu en fait leur filiale de médicaments génériques et quasi-génériques. Ils l'ont introduit en bourse en septembre, et là actuellement, Sandoz, on est 30% au-dessus c'est disons le prix d'introduction. Je vais vous dire le prix d'introduction, c'était un cours technique d'introduction. On est 30% au-dessus. Donc ça montre bien que le marché, il aime en fait quand on fait ces opérations de scission parce qu'on cristallise de la valeur et qu'on sépare les activités. Normalement, on les alloue mieux pour chaque entreprise.
Vous tous qui nous écoutez, qui nous suivez au cœur de la famille BFM Bourse, le CAC 40 est en repli de 0,6%. Et si vous cherchez une idée de valeur en plus, si vous voulez compléter vos portefeuilles, valeur ajoutée, c'est chaque jour à 16h15 en direct, mais vous avez droit à un deuxième service en replay et podcast. Ça y est, le replay a été mis en ligne sur notre application BFM Business. Tout à l'heure, c'est Renaud Ramed qui nous disait être à l'achat sur le titre Attendez, je ne veux pas dire de bêtises. Bazefa, vous l'avez ou pas, Julien ? Attendez, je vais le retrouver là. C'est la magie du direct. C'est pour ça qu'on aime le direct.
Béfeza.
Effectivement. Et donc, il est à l'achat. Un argumentaire complet, un objectif de cours d'ailleurs, qui nous a fixé, qui laisse un potentiel de hausse de plus de 25% sur cette valeur Béfeza. Il nous a expliqué pourquoi il était si optimiste. Et donc, c'est à retrouver en replay sur notre application BFM Business. 16h49, chaque jour, un expert de marché vient déconstruire une idée reçue. Un consensus de marché un peu trop facile à ses yeux. Aujourd'hui, c'est Franklin Pichard qui nous accompagne pour le bullshitomètre. Franklin Pichard pour Kipling Finance. Bonjour Franklin.
Bonjour Guillaume.
On est ravis de vous retrouver. Franklin, on entend souvent que, c'est vrai, le marché est très concentré, mais qu'il n'y a pas de souci à se faire parce que la rotation sectorielle va arriver. Et quand cette rotation va arriver, le marché trouvera de nouveaux moteurs. Certains nous disent même que ça y est, la rotation sectorielle est en cours. Ce n'est pas du tout ce que vous observez. Vous dites même « bullshit ». Vous foudroyez. Cette idée qu'une rotation sectorielle serait en cours, qu'est-ce qui vous déçoit là dans le profil des marchés? Enfin voilà, c'est vrai, c'est que le marché était très concentré sur deux secteurs depuis à peu près 6-9 mois, le luxe et la tech. Puis on se disait, ça y est, quand même, les choses, les cycliques par exemple, les défensives sont en train de remonter la pente et ça faisait partie des choses qui rassuraient les investisseurs et les analystes de marché. Là, vous, vous dites bullshit. Pourquoi?
Eh bien, justement, pour ce que vous venez d'expliquer, Guillaume, c'est-à-dire que si on reprend les événements récents, quand vous m'avez proposé de venir intervenir, l'idée était que depuis une dizaine de jours, tout le monde vous dire, ça y est, la tech, c'est fini, aujourd'hui, c'est le retour du Dow, c'est le retour des valeurs de croissance, on ouvre le spectre, on ne peut plus se concentrer que sur les Big Five ou les sept magnifiques, et en fait... On a vu une baisse de 6% sur Nvidia, on a vu une baisse de 12% sur les plus hauts de Nvidia, et on a vu hier un retour en grâce, plus 6,8% sur Nvidia, et qui a tiré l'ensemble des valeurs de la tech, que ce soit Meta, Alphabet, que ce soit Micron Technologies, et également Taiwan Semiconductor. On a vu, voilà, tout le monde repartait fortement à la hausse. Là où le Dow Jones perdait 0,8, le Nasdaq prenait 1,13, et on a vu que tout ce que tout le monde brûlait 24 heures plus tôt, l'encensait encore hier, et aujourd'hui on consolide normalement, gentiment, enfin il n'y a pas de catastrophe. Donc plus largement, on s'aperçoit que finalement, quand on n'a pas trop d'idées, quand on ne sait pas expliquer quelque chose, on explique qu'il y a une rotation sectorielle qui s'opère, on explique que ça y est, on va jeter un compartiment, un segment. J'écoutais votre intervenant précédent, on parlait des valeurs vertes, on a parlé des valeurs vertes qui ont été à la mode. Et puis on le dit, là, c'est pas à la mode. Alors à un moment, on aura peut-être une rotation sectorielle. On reviendra peut-être dessus et c'est le jour où on saura plus quoi dire. Mais ça manque de fondamentaux quand on affirme des choses comme ça. C'est plus un effet mode, c'est plus des explications par défaut. Et pour moi, la rotation sectorielle, c'est un bon alibi quand on n'a pas grand-chose à dire.
Julien vous interroge également, Franklin.
Oui, bon, les rotations sectorielles... Les effets de mode, ils sont parfois très prégnants. On l'a vu sur l'électrique, le véhicule électrique, où à un moment donné, on a l'impression que tout ce qui est électrique pouvait s'introduire en bourse et partir en fusée sans rien. Franklin, juste sur cette rotation sectorielle qui donc n'existe pas forcément, vous pensez, vous, que la vague de publication qui va arriver dans les prochaines semaines peut un peu remettre les pendules à l'heure?
C'est-à-dire que... vraisemblablement. Regardez, par exemple, hier, on a eu le plongeon d'Airbus. Airbus va publier. Ce qu'ils nous ont annoncé là, en warning, ça va être dans les chiffres publiés dans quelques semaines. Quand on me demande est-ce qu'il faut acheter Airbus, je dis attendez la publication. Je pense que le mal est fait. Mais il y aura peut-être toujours un petit retour de papier encore sur la publication. Plus généralement, on va être dans une période un peu compliquée, un peu tendue. Et je pense que les investisseurs vont être très, très, très critiques sur la lecture des publications du T2. Et puis, c'est ce que j'ai l'occasion de dire, effectivement, historiquement, enfin, si on prend les 10 dernières années, c'est rarement bon. Le troisième trimestre est un petit peu un trimestre de transition. Et effectivement,
c'est bon, on parle de transition. Du troisième trimestre, là.
Oui, mais les publications du deuxième trimestre auront lieu au troisième trimestre.
Et donc auront lieu au troisième.
Voilà, ça. Donc le
c'est-à-dire
troisième
la période
trimestre bourse,
juillet ou de septembre est rarement porteuse.
Excusez-moi.
Voilà. Et donc, effectivement, je ne me suis peut-être pas bien exprimé clairement.
C'était très bien.
Et donc, en tout cas, voilà. Donc, c'est vrai que cette période juillet-août-septembre,
en bourse,
si vous prenez ça en bourse, eh ben, regardez le CAC, c'est pas là qu'on fait les meilleures affaires.
Mais vous, Franklin, beaucoup d'expérience sur le marché. La saisonnalité des marchés, c'est vraiment quelque chose à quoi vous prêtez beaucoup d'attention. Vous nous dites le troisième trimestre qui va arriver, là, généralement, en bourse, c'est, d'un point de vue historique, pas le meilleur. OK. Est-ce qu'une hirondelle fait le printemps? Est-ce que les performances passées présagent des performances à venir? Vous regardez vraiment la saisonnalité?
Non, je regarde les faits, c'est tout. Je regarde ce qui s'est passé et je regarde l'environnement de la fin de ce mois de juin et de cette première semaine de juillet.
Oui.
pour imaginer qu'avec cette accumulation de sujets plus que sensibles politiques, on a des indicateurs qui ne sont pas forcément extraordinaires.
Mais vous imaginez par exemple, oui, on parle beaucoup des législatives françaises, on est très centré en ce moment sur la France, mais par exemple, si les marchés mondiaux montent, s'il y a des bonnes nouvelles, etc., vous pensez que le CAC 40 pourrait, lui, dans son côté, tout seul, s'effondrer juste parce que le résultat des législatives ?
Non, il y a toujours un effet de sympathie et le CAC 40 a toujours été un suiveur et il continuera de suivre une évolution plus générale de l'évolution. Si le marché américain se met à exploser, je pense qu'effectivement, et on l'a vu, hein, on a vu, vous le disiez tout à l'heure, on a vu où Étienne, on a vu le CAC 40 qui perdait 1,33 ce matin, on a l'ouverture de New York et on voit qu'on a réduit quasiment de moitié les pertes. Donc effectivement, on voit qu'on n'est pas des marchés matures qui sont capables d'être totalement autonomes et de fonctionner en totale indépendance vis-à-vis de notre situation domestique et de nos propres publications.
Vous restez avec nous, conseil de famille qui se poursuit pour encore 3-4 minutes, Franklin, qui va rester, Franklin Pichard, le bullshitomètre que vous pourrez retrouver d'ailleurs aussi dans un instant en replay sur notre application BFM Business. Mais on va saisir la perche que vous avez tendue, cette comparaison entre Wall Street et l'Europe, qui mène qui, bah, c'est Wall Street hein, qui mène le monde en bourse, effectivement, et on va regarder justement ce qui se passe aujourd'hui sur le marché américain. Il y a un titre qui gagne 30%, oui. C'est une valeur automobile et c'est aussi l'objet du Factor X. Chaque jour, on regarde également, on détecte vos postes à forte valeur ajoutée sur le fil X ou encore le fil LinkedIn. Et on a vu ce poste bien d'un membre de la communauté financière, il s'appelle Amit, qui effectivement évoque ce secteur automobile américain. Rivian, qui gagne donc 30% en ce moment à Wall Street, parce que Rivian, nous dit Amit, a obtenu 5 milliards de dollars de Volkswagen. Oh my goodness, nous dit Amit. Rivian, 5 milliards de dollars, en fait, que Volkswagen va investir dans une co-entreprise. Qu'est-ce que ça dit, ça, de la transformation du segment automobile, Julien ?
Le nombre d'enseignements à tirer de ça, il est gigantesque. Rivian, c'est une société qui s'est introduite en 2021 en bourse, en fanfare, lorsque le marché n'avait d'yeux que pour l'électrique et d'une façon un petit peu irrationnelle. Et tout a explosé depuis avec l'adoption du véhicule électrique qui a ralenti, les problèmes de production, j'en passe. Et effectivement, Volkswagen vient un peu à la rescousse de Rivian. Et quand on évoque les 5 milliards, c'est un peu compliqué. Il y a 3 milliards qui vont aller sur plusieurs échéances directement dans Rivian et les 2 milliards dans la JV. C'est important pour Rivian parce que les pertes, si vous voulez, en cumulé sur les deux dernières années, c'est plus de 10 milliards de dollars. Mm-hmm. Pour un chiffre d'affaires qui est de 4 milliards à peu près. Donc Rivian avait bien besoin de cet argent. Mais en fait, ce qu'il faut aussi voir, c'est que Volkswagen a aussi peut-être besoin de Rivian.
Oui.
Rivian, ils sont spécialisés dans des technologies, des architectures software électriques qui sont peut-être l'avenir. Et surtout, Volkswagen, ils ont essayé de faire ça en interne avec une filiale qui s'appelle Cariad, qui a rencontré plein de problèmes, qui a dû reporter des lancements de plateformes architecturales de software, ce qui a d'ailleurs pesé sur certains lancements, notamment chez Porsche. Donc Volkswagen avait du mal, si vous voulez, donc ils préfèrent s'allier et faire finalement que faire.
Et ils accèdent ainsi aux technologies de Rivian.
C'est ça. Ouais. C'est Bernstein qui dit que c'est un peu le dernier clou dans le cercueil de l'ambition de Volkswagen de faire en interne ces logiciels. C'était un peu dur, mais vous voyez, il y a beaucoup de choses. Et dernier enseignement que je tire, excusez-moi, Volkswagen, qui en 2021 était apprécié du marché pour vouloir faire beaucoup de choses en interne en électrique, aujourd'hui est un peu sanctionné. Stellantis, qui a toujours une approche beaucoup plus frugale via des partenariats, vous voyez, en cherchant des gens parfois meilleurs qu'eux sur certains trucs, a l'air de sentir un peu mieux.
Oui. Quel regard vous portez là-dessus, Franklin? Rivian obtient donc, cet investissement de Volkswagen, 5 milliards de dollars dans une coentreprise détenue à parité par Volkswagen et Rivian. Rivian gagne 30% à New York. Est-ce que c'est le mariage parfait entre deux groupes qui finalement parviennent à trouver chez l'autre, l'un chez l'autre, les meilleurs avantages, enfin les meilleures réponses à ses besoins?
Alors, je serais toujours plus méfiant. Hein. On évoquait à l'instant Stellantis, qui à un moment a signé des partenariats avec la Chine et puis après a fait marche arrière. Vous avez Renault, qui a une co-entreprise aussi, qui produit des véhicules en partenariat avec la Chine. Et en concernant Volkswagen, c'est ce que vous disiez. Quand vous prenez le cours de Volkswagen en janvier 2022, on était à 280 €. On est autour de 113 € à peu près ce soir, je crois. Donc, on voit le parcours boursier de Volkswagen. Ceux qui ont des titres Volkswagen peuvent espérer de sortir par le haut de cette situation où, effectivement, Volkswagen s'était un petit peu endormi en considérant que ses ventes en Chine étaient parfaites et qu'ils n'avaient pas de soucis par rapport à ça. Et puis, finalement, ils se rendent compte que si, ils ont des soucis, ils ont des problèmes, surtout sur l'électrification. Et par conséquent, ça ne peut qu'être salutaire. Mais On a vu que les constructeurs français qui ont fait des entreprises ont eu un parcours boursier largement meilleur. Oui. Souhaitons le même parcours à Volkswagen.
Bon, et entre les acteurs historiques qui s'allient aux nouveaux acteurs, qu'ils soient chinois ou américains, et les nouveaux acteurs, qu'est-ce qu'il faut privilégier en bourse ? Plutôt Rivian qui souffre en bourse, hein, quand même, historiquement. Rivian que Volkswagen, plutôt voilà, ces acteurs spécialisés dans l'électrique, voire pourquoi pas des acteurs chinois que nos acteurs traditionnels européens, ou plutôt quand même nos acteurs européens, parce qu'on parvient à trouver des alliances avec les nouveaux acteurs.
Moi, j'ai un côté un peu paysan qui me fait privilégier d'avoir les pieds sur terre. Donc, je vais privilégier nos acteurs historiques qui n'ont pas que tous leurs pieds dans un même sabot, qui sont à la fois sur le thermique et l'électrique. Je pense aujourd'hui qu'on parle beaucoup de l'électrique. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais ça n'est pas, et c'est loin d'être au niveau mondial, 100% du marché. Par conséquent, plutôt que de tout ciblé sur de l'électrique et de l'opérateur électrique, je préfère rester sur des généralistes.
Franklin Pichard, Kipling Finance, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Franklin, c'est la famille BFM Bourse chaque après-midi. Julien Marion, bfmbourse.com. Merci Julien.
Merci Guillaume.
Et cet article consacré à Sanofi qui est en ligne, bien sûr. Le CAC 40 est en repli de 0,6%. Dans un instant, on va mesurer le potentiel avenir des marchés, établir des scénarios aussi en fonction des législatives et vous apporter dans la prochaine heure d'autres idées pour vos portefeuilles boursiers. On se retrouve après la pause. À tout de suite.